Salut et bienvenue dans Radioactive, sur Radioactive 101.9 FM ou sur le www.radio-active.com pour un nouvel épisode de Bol. Bol, c'est votre émission littéraire qui revient aujourd'hui sur un tout petit groupe anglais très très peu connu qui s'appelle les Rolling Stones. Mais vous allez voir, c'est plutôt marrant et ça va être un bon moment que nous allons passer ensemble. Donc vous êtes bien sûr Radioactive, c'est Patrick pour vous servir et puis on est ensemble pour 30 minutes. Bol, c'est parti! Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bol consacré au fameux groupe les Rolling Stones avec un livre qui s'appelle Hot Stuff, les Rolling Stones en 18 leçons. Oui, c'est ça, 18 leçons. C'est écrit par Milan d'Argent, c'est paru aux éditions Le Mot et le Reste. Pourquoi ce livre? Pourquoi les Rolling Stones? Les Rolling Stones, tout simplement parce que c'est le plus grand groupe de rock du monde, qui est toujours en activité depuis les années 60. On ne vous raconte pas son histoire, tout le monde la connaît. Ça a commencé avec un célèbre duo, Keith Richards et Mick Jagger. Bon, il y a eu pas mal de membres du groupe qui ont voyagé à droite, à gauche, il y en a certains qui sont morts, il y en a certains qui sont encore vivants, mais voilà. On ne va pas vous refaire l'histoire des Rolling Stones, il ne s'agit pas vraiment d'une biographie, si ce n'est une biographie de fans. Et c'est là où ça change tout, parce qu'ils ne parlent pas en fonction des ventes de disques, ils ne parlent pas en fonction de tout ce qui peut être, on va dire, objectif. Ils parlent avec le cœur, ils parlent avec le cœur et ils le font très très bien, parce que c'est un livre qui est franchement très 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 bien écrit et il est également très très drôle. Et voilà, souvent on a pu lire, enfin voilà, si vous vous intéressez un petit peu à la chose rock et notamment Rolling Stones, vous avez pu lire des biographies plus ou moins sérieuses, plus ou moins bien documentées. Et ben là, écoutez, il n'y a rien de forcément très très documenté, c'est vraiment une interrogation finalement sur le sens que ça a d'être fan d'un groupe et jusqu'à quel point on est prêt à suivre les membres de ce groupe dans leur délire, dans leurs bons albums comme dans leurs mauvais albums. Et puis ça nous fait un petit peu penser aussi à ce rapport avec le temps qui passe, forcément laisse des traces. Et bref, ce Hot Stuff est absolument réjouissant. Je vous rappelle, c'est Milan d'Argent qui a écrit ça. C'est paru chez Le Mot et le Reste. Et je vous en parle juste après un petit morceau des Rolling Stones.
Please to meet you. Hope you guess my name. Oh.
Mais vous êtes bien à l'écoute de Radioactive sur le 101.9 FM ou sur le www.radio-active.com. Nous sommes dans Bol et vous aurez bien évidemment reconnu Sympathy for the Devil des Rolling Stones. Voilà, on s'en lasse pas et je crois qu'il faut quand même admettre qu'on a rarement fait mieux que ce morceau qui figure sur l'album Beggar's Banquet, sans doute un des meilleurs albums des Rolling Stones. Et c'est pas Milan d'argent qui a écrit donc Hot Stuff, les Rolling Stones en 18 leçons éditées chez Le Mot et le Reste qui viendra me contredire, parce que d'après lui, effectivement, les meilleurs albums des Rolling Stones se situent dans la fourchette, voilà, plus ou moins large, de 1968 à 1975. Et donc, ce fameux Beggar's Banquet, c'est vraiment une petite pépite du genre, très blues, très rhythm and blues. Et voilà, ce Sympathy for the Devil, et ben voilà, il déchire. Je vais vous parler un petit peu plus en détail de ce Hot Stuff, donc écrit par Milan d'Argent, et peut-être tout simplement vous lire l'introduction de ce livre qui vous donnera à la fois une idée de l'écriture de l'auteur et puis aussi de son humour. Donc je commence, c'est l'intro. Certains se passent de lire les préfaces par paresse ou par peur qu'elles leur révèlent la fin mot de l'histoire. En ce qui concerne le sujet de ce livre, aucun risque, rien qui ne se sache déjà. Des Rolling Stones, on connaît tout par cœur, le sexe, la drogue et le rock'n'roll. Entre autres choses moins fondamentales, tenant souvent de la rubrique People, le débat est clos. En ce cas, à quoi bon remettre le couvert et parler encore et toujours du greatest rock'n'roll band in the world ? Expression qui apparaît pour la première fois en toute modestie sur leur disque live de 1969. Le vent a tourné depuis, mais en même temps, ce fameux groupe est encore là, son titre en main, malgré les pépins et les pertes essuyées au fil de son épopée. Le cœur bat toujours, même si le rythme cardiaque en a pris un sacré coup après le décès de leur batteur historique à l'été 2021. Le dinosaure Rolling Stonus, espèce increvable, s'accroche jusqu'au bout, s'imposant à nous comme un gigantesque anachronisme. Et c'est précisément parce que le phénomène est désormais hors de notre temps, tout en y gardant quelques attaches, qu'il est si précieux. Personne n'a envie de se retrouver face à face avec un tigre, mais chacun s'accordera à admettre que la disparition de l'espèce lui arracherait des larmes. Et de même, un ours en peluche n'a valeur de doudou que si rencontrer son modèle grandeur nature au détour d'un chemin demeure possible, malgré un très faible taux de probabilité. Il y a un âge où vénérer un groupe de rock n'a rien d'étrange. Il est d'ailleurs des parents soucieux de se voir confrontés à une progéniture étrangère à ce type de processus d'identification, sachant qu'il sera en général suivi d'un processus inverse menant à la découverte émancipatrice d'une identité propre. Minoritaires au sein de la grande armée stonienne, quelques jeunes recrues continuent néanmoins régulièrement de rejoindre ses rangs de manière moins démonstrative et engagée qu'en 1964, mais avec une ferveur certaine. Ouf, soupire le gros des troupes, rassuré par la présence d'une relève et par la preuve que sa passion n'est pas uniquement l'apanage des anciens combattants. Il y a un âge où se préoccuper d'un groupe de rock, ou plutôt de son propre rapport à ce groupe, a quelque chose de vaguement honteux qu'on a le droit de qualifier d'infantile. Un adulte est censé avoir remplacé les posters qui tapissaient sa chambre de gosse par des affiches d'exposition du genre rétrospective Henri Matisse et des photographies sépia de sa petite famille. Un adulte est censé avoir autre chose à faire que guetter la réédition d'un disque qu'il avait acheté en 1973 au cas où il y aurait des titres bonus. Un adulte encore fan passera pour un ado attardé, voire un attardé tout court. Mais de même que l'extrême vieillesse déclenche souvent un retour vers l'enfance, la persistance à l'âge mûr d'une passion adolescente, comme au hasard une fixette monomaniaque sur les faits et gestes du greatest rock'n'roll band in the world, est une pathologie plus courante qu'on le pense, sans doute symptomatique d'une société en rupture avec celle qui la précédère, moins encline à la nostalgie. Le refuge vers une jeunesse perdue n'a en soi rien de nouveau, c'est le refus de grandir propre à notre époque qui a de quoi surprendre, bien qu'une nuée de sociologues en donne certainement l'explication. Voilà une. Et si, après tout, le bataillon d'ados à cheveux gris du monde dit « développé » n'avait fait que prendre à la lettre l'affirmation de Marcel Proust selon laquelle l'adolescence est le seul temps où l'on ait appris quelque chose. Jacques Brel a prononcé une sentence assez similaire. L'homme a terminé sa vie avant d'avoir 20 ans. Dont acte. Puisqu'après notre 20e année, la décrépitude est inéluctable, se sont dit les baby boomers, suivis par leurs enfants désormais eux aussi atteints par l'âge. Restons jeunes, restons fans. Tout indique que les générations futures continueront sur cette lancée avant qu'un cataclysme permette à la maturité de retrouver ses droits ancestraux. Le constat est là, quoi qu'il en soit. Nos émois adolescents s'inscrivent en nous sans jamais s'effacer, fondation sur laquelle se sont construits les murs et le toit de notre vie immatérielle, celle de l'esprit et surtout celle du cœur. Trêve de digression, le deal ici est de proposer un bouquin sur les Rolling Stones. Or, ce livre n'est pas un livre sur les Rolling Stones, mais il l'est avant tout. Ce livre n'est pas un autoportrait en fan expiatoire, mais il l'est à sa façon. Ce livre n'est pas un manuel scolaire, bien qu'il propose 18 petites leçons à ceux qui chercheraient à comprendre le pourquoi du comment d'un groupe anglais dont le logo qui nous tire la langue s'est imprimé sur les t-shirts du monde entier. Les archéologues de l'an 3000 retrouvant très souvent un de ces t-shirts enfouis sous 25 mètres de déchets en chercheront la signification. Leur tâche sera grandement facilitée s'ils dénichent un exemplaire de l'ouvrage que vous tenez entre vos mains. Ça tombe bien, aider la science et sa véritable ambition. Voilà, ça en donne un petit peu long sur la teneur de ce livre, de son humour, de son côté un petit peu pas sérieux, bien qu'il soit très très sérieux et surtout très très bien écrit. Et la première leçon, c'est Angie, le syndrome du slow. Ce morceau tant détesté par les fans de la première heure des Stones, pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement le groupe commençait à leur échapper et forcément tout le monde le connaît, ce slow. Eh bien c'est ce que certains fans lui reprochent et c'est la première leçon et je vous passe un petit morceau des Rolling Stones.
Yeah.
Vous êtes toujours à l'écoute de Bol sur Radioactive 101.9 FM ou sur le www.radio-active.com et vous venez d'écouter Happy des Rolling Stones qui figure sur l'excellent album Exile on Main Street dont il est forcément question dans Hot Stuff, les Rolling Stones en 18 leçons de 1000 ans d'argent paru aux éditions Le mot et le reste, pardon. Ouais, il y a plein de choses qui sont évoquées dans ce livre, notamment peut-être les sujets les plus importants, c'est-à-dire la mort de Brian Jones ou l'assassinat de Brian Jones ou la noyade de Brian Jones, on ne sait pas trop. Toujours est-il que Milan d'Argent a une petite phrase très rigolote en disant que le fameux jardinier de la demeure presque royale de Brian Jones s'est vanté sur son lit de mort d'avoir noyé le Rolling Stone et il dit quel crétin serait assez con pour revendiquer la mort d'un musicien tel que Brian Jones. Donc c'est évoqué, il y a plein de choses qui sont évoquées, hein, les albums qui n'ont pas trouvé grâce aux oreilles des fans des Rolling Stones, il y a aussi tous les palliatifs si jamais vous vous retrouvez en manque des Rolling Stones et que vous n'avez pas d'album sous la main, et ben voilà, il y a plein de petites indications d'albums plus ou moins connus. D'ailleurs c'est ça qui est vachement bien parce qu'il nous met certains noms à l'oreille qui forcément demande à aller approfondir un petit peu les choses sur n'importe quelle plateforme digne de ce nom. Il y a aussi un lexique à la fin qui revient un petit peu sur les noms qui sont rencontrés au fur et à mesure de cette histoire. Un lexique, qui est assez drôle lui aussi, preuve qu'on peut s'amuser jusqu'au bout d'un livre. Je vous précise, le livre il est assez court, hein, il fait 160 pages je crois, je vais vous dire ça tout de suite, il fait moins de 160 pages d'ailleurs, il fait 130 pages. Voilà, moi je vous le conseille, que vous soyez fan des Stones ou pas, parce que finalement, si vous n'êtes pas fan des Stones, si vous ne connaissez pas grand chose à ce groupe, eh ben, vous allez en apprendre quand même un petit peu, même si le but n'est pas là. Et puis, si vous êtes fan, et ben juste pour vous fendre la gueule, et puis pour vous dire aussi que, ben, comme tous les fans de Stones, vous ne serez pas d'accord sur le meilleur titre composé par le groupe, vous ne serez pas forcément d'accord sur le meilleur album, mais vous serez tous d'accord pour dire qu'il s'agit du plus grand groupe de rock du monde encore en activité et qui ne cessera, comme le dit Milan d'Argent, non pas avec le décès malheureusement de Charlie Watts, pas plus avec le décès de Ron Wood, mais bien quand le duo Richards-Jagger viendra à pousser son dernier souffle. C'est eux véritablement qui sont l'âme des Rolling Stones, c'est eux véritablement qui ont façonné ce groupe, toujours, comme le précise Milan d'Argent, avec cette subtilité d'être toujours en équilibre entre le mauvais goût et le bon goût, entre la provocation et la sagesse, pardon. Voilà, c'est un groupe qui, quoi qu'on en pense, a écrit des morceaux absolument phénoménaux, des morceaux d'anthologie. C'est un groupe qui réunit toujours autour de lui une fan qui vient aussi à une fan base pardon qui vient aussi à se réduire hein, parce que les premiers fans des Rolling Stones ils commencent à avoir de la bouteille aussi donc forcément il y en a un petit peu moins que dans le temps. C'est un groupe qui est toujours en activité, c'est quand même assez incroyable au bout de 60 ans avec tous les excès qui ont été les leurs et qui sont un petit peu relaté dans ce bouquin. Enfin voilà, moi je trouve que c'est important quand même de lire des petits bouquins comme ça qui n'ont pas véritablement de prétention si ce n'est celle de nous faire découvrir un groupe, de nous faire rire et tout en étant, je le répète, c'est assez rare dans ce type d'ouvrage, c'est superbement bien écrit, c'est même pour moi l'équivalent d'un bon roman, donc je ne saurais trop vous conseiller de l'acquérir. Je crois d'ailleurs que la librairie La Nouvelle à Saint-Brieuc reçoit fréquemment des bouquins du mot et le reste, et allez les voir, et voilà, je vous le conseille grandement. Et écoutez, il est déjà l'heure de se quitter. Je vous mets un dernier morceau des Rolling Stones, peut-être mon morceau préféré. Il s'appelle Sister Morphine. Il est extrait de l'album Sticky Finger, probablement un également des meilleurs albums des Rolling Stones. C'est avec Monsieur Ray Cooder à la Guitar Slide. Et nous, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bol. Allez, salut!
Sister Morphine.